La chronique de Pierre-Yves McSween est présentée par Desjardins. Quels que soient vos objectifs, nos conseillers sont là pour vous accompagner tout au long de votre parcours financier.
C'est 23.
Voici la chronique économique de Pierre-Yves McSween.
On parle beaucoup du budget du Québec avec raison. Est-ce qu'il y aura ou pas des baisses d'impôts? Il semble que oui. Quelle sera l'ampleur? On verra. Mais qu'est-ce qui se passe dans la marmite fédérale pendant ce temps, Pierre-Yves?
Ah, la marmite fédérale, on en parle dans la presse ce matin que, tu sais, avec ce qui se passe présentement dans l'économie, ça se pourrait qu'il y ait une récession. Et qui dit récession ou menace de récession dit budget et dit au gouvernement, ben, quels seront vos choix? Est-ce que ce sera compression budgétaire? Augmentation des taxes, augmentation des impôts. Là, il y a des voix qui se lèvent dans l'article ce matin, dans les affaires, pour dire, regardez, on propose des hausses de taxes et d'impôts ou pas, et on voit ce que ça donne. Mais j'aimerais qu'on ait une réflexion là-dessus. Quand Bill Borneau a quitté le gouvernement libéral, il a dit, bon, je vous laisse en de bonnes mains. Plus tard, il a affirmé devant un institut CDA que finalement, le gouvernement se souciait plus de l'image que de la substance quand vient le temps d'élaborer ou de mettre en œuvre des politiques économiques. En somme, il critiquait la gestion des finances publiques du gouvernement. Et le problème, c'est que présentement, qu'est-ce qu'on fait? Tu sais, par exemple, si tu décides, pour des raisons budgétaires, éventuellement d'augmenter les taxes à la consommation, on se souvient que le gouvernement Harper avait baissé la TPS puis que le gouvernement du Québec est allé chercher la différence immédiatement, tu t'en souviens?
Mais sûr.
À l'époque, on taxait les taxes, donc on passait d'un total de 15,56% à 14,97,5 quand même, donc on a une réduction historique au net. Maintenant, si le fédéral va rechercher 1% éventuellement, ben la marge que le Québec est allé chercher, ben là, on dépasserait l'historique. Ce que j'aime dans l'augmentation des taxes à la consommation par rapport aux impôts, c'est que c'est consommateur-payeur. C'est-à-dire que les produits de base, souvent, sont détaxés dans l'alimentation. Mais si quelqu'un se paie une grosse voiture de luxe, ben, il paye les taxes dessus. Et donc, il y a une logique de consommateur-payeur dans l'industrie. Par contre, quand on arrive aux hausses d'impôts, là, c'est un autre enjeu. On se souvient que le gouvernement Trudeau avait dit avoir baissé les impôts de la classe moyenne pour augmenter l'impôt des plus riches. Bon, évidemment, quand on regardait le calcul, on se rendait compte qu'on baissait des paliers qui touchaient même les riches et que finalement, oui, il y avait un déplacement de l'impôt. Oui, pour ceux qui gagnaient de très gros salaires, on avait une augmentation de l'impôt. Mais là, si tu veux faire, disons, marche arrière et augmenter les impôts pour aller chercher de l'argent, ça sera pas très populaire. Et à l'époque, on disait, vaut peut-être mieux pas donner un bonbon pour aller le rechercher après. Alors, présentement, on paye 53,31% d'impôts quand on atteint un montant total de 235,675 sur le prochain dollar. Mais qui tu pénalises? Est-ce que tu pénalises les premiers paliers d'impôts, les paliers plus élevés qui sont déjà au-delà de 50%? Tu déplaces les paliers d'impôts? Alors ça, c'est difficile. Puis le point bien important, c'est quand tu joues sur les impôts des particuliers, tu pénalises plus les salariés officiels. Tu pénalises plus ceux qui ne peuvent pas jouer avec leurs revenus. Tu pénalises les hauts salariés ou les salariés dans les entreprises. Parce que chaque fois qu'on joue avec l'impôt, on vient augmenter l'iniquité entre ceux qui peuvent jouer avec leurs revenus, c'est-à-dire les entrepreneurs, les gestionnaires d'entreprises, ou ceux qui sont des salariés, ou ceux qui fraudent. Parce que ça, on n'arrête pas de dire que c'est marginal. Mais il y a beaucoup de fraude fiscale. Alors, chaque fois qu'on joue avec la fiscalité, on vient redonner ou enlever un avantage fiscal aux fraudeurs aussi. Et là, si on se dit, ben, c'est pas de problème, on va aller jouer dans les impôts des entreprises. Ben là, il faudrait jouer dans un langage cohérent. Parce que pour garder nos entreprises, pour les attirer, depuis l'époque Harper, on baisse des impôts, on donne des bonbons fiscaux, on donne des avantages, on donne des subventions. T'as une fonderie à Rouyn-Noranda qui pollue, puis on leur dit, on va vous aider à dépolluer quand on pense que c'est leur responsabilité. Ben, imagine au fédéral, quand on annonce en grande pompe des usines de batteries, Paul, puis qu'on dit qu'on amène ça avec certains avantages dont on ne connaît pas vraiment l'essence, ben c'est une façon de dire qu'on aide les entreprises. Donc, où on va prendre l'argent?
Mais j'ai quelques questions pour toi.
Vas-y.
Au-delà de dire, est-ce qu'on augmente les taxes, les impôts et tout ça, quand je vois régulièrement des analyses faites par des vérificateurs, par des responsables du budget, les dépassements délirants pour ce qui est de la prestation canadienne d'urgence, là. Puis des sommes qui ont oui. été garochées même à des employés qui étaient à l'emploi du gouvernement, tu sais, il faut le
ou
faire.
Ou de la gestion de système informatique, disons.
Oui, ça c'est un autre exemple. Ou encore un régime de soins dentaires qui, à sa face même, va entraîner des dépassements de coûts puis des gens qui vont recevoir de l'argent qui n'auraient pas dû en recevoir. Moi, je suis prêt, là, comme contribuable, à accepter un certain pourcentage de gaspillage quand il y a des grosses machines. Mais je trouve qu'actuellement, là, les fenêtres sont ouvertes, le ventilateur fonctionne, puis les billets verts sortent vers l'extérieur.
En fait, on a l'impression que la machine à dépenser du gouvernement est comme infinie depuis l'élection, la première élection du gouvernement. On n'a jamais dit, voici, nous, on aura une rigueur budgétaire, nous, ça sera une priorité. Et d'ailleurs, c'est un terreau très fertile pour les conservateurs présentement. Parce que même avant la COVID, même avant la pandémie, le gouvernement acceptait de faire des dizaines de milliards de déficits annuels au nom de la croissance, de aider les Canadiens. Mais comme tu dis, où ça s'arrête? Ben, je te donne un exemple. Tu sais, moi, je trouve ça bien le fun, les allocations canadiennes pour enfants, pour aider les familles. Mais quand je vois que il y a aucun mécanisme pour contrecarrer le fait que tu peux t'incorporer ou tu peux ne pas te verser salaire pendant une année, avoir une grosse allocation puis être millionnaire. Il y a quelque chose qui fit pas là-dedans. Il y a un bris de confiance. Quand je vois qu'on a des dépenses qui ne cessent d'augmenter, des investissements dans des nouveaux programmes, proposer des nouvelles choses, des nouvelles initiatives, des nouvelles aides. Je te donne un bon exemple concret, là, le CELIAP. Ouais. Ça, je te le donne, je t'en ai parlé. Tu vas donner une déduction aux Canadiens qui n'ont pas de maison, qui veulent en acheter une. Ça va créer des anomalies fiscales. Ça va augmenter les déductions, réduire les revenus de l'État, augmenter la capacité d'acheter une maison, mais ça va augmenter le prix des maisons implicitement aussi. Donc, c'est une mesure qui t'enlève de l'argent. Puis est-elle efficace au bout du compte? Je suis pas certain. Alors, c'est une réflexion, mais chose certaine, ça va être intéressant aux élections. Money.
C'est 23.